voilà, l'évangile de Jean, chapitre 2, et à partir du verset 1er. Voici ce récit que nous lisons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit qu'ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Voilà, c'est donc le récit du premier miracle accompli par le Christ au cours de son ministère public qui nous est conservé dans ce récit de l'évangéliste Jean. Alors, oui, bien sûr, tous les miracles du Christ ont leur importance et sont glorieux, puisque par essence, ils sont des miracles, manifestations de sa puissance divine. Mais d'une certaine manière, je crois qu'on peut dire que ce premier miracle accompli par le Christ dans son ministère, bien, a de quoi attirer particulièrement notre attention, et d'autant plus que nous nous souvenons que lorsque le Christ a accompli ces glorieux miracles qui ont émaillé son ministère terrestre, bien, il y avait au moins 3 choses dans ces miracles. Premièrement, le Christ déployait ainsi sa miséricorde, sa compassion, son désir de faire du bien à la race humaine. Et voilà, chaque miracle, chaque guérison était une manifestation de sa bonté, de sa compassion vers les malades et de ceux qui passaient par la difficulté, qui étaient ainsi secourus. Puis les miracles du Christ étaient aussi une manière pour lui d'authentifier, de confirmer son enseignement, son message, celui qu'il apportait, hein, puisqu'il apportait cette bonne nouvelle de la part de son Père. Et puis encore, je crois que les miracles du Christ, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont une signification derrière l'acte de puissance divine qui se manifestait lorsque Jésus les opérait. Il y avait un message, parfois un symbole, une allégorie d'une vérité morale ou spirituelle que le Seigneur désirait nous enseigner. Et c'est probablement le cas ici, c'est ce que je vous propose de découvrir en réfléchissant ensemble sur ce premier des miracles accompli par le Christ. Trois remarques peuvent être faites d'emblée sur ce miracle. La première, c'est que cette action miraculeuse, c'est cette eau qui a été changée en vin au cours d'une fête de noces, eh bien, ça a eu lieu au cours d'un mariage. Or, le mariage, vous voyez, c'est une institution divine. Dès les premières pages de la Bible, nous voyons que Dieu a béni cette union entre un homme et une femme. Dès les premières pages de la Bible, alors que Dieu a créé l'homme et la femme, il nous est dit que Dieu a vu que cela était très bon et il a prononcé une bénédiction sur le couple. Et dès ces premiers chapitres de la Bible, nous entendons Dieu dire « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. » Le mariage est donc la première institution que Dieu a instituée pour l'homme. Et ce n'est pas un hasard, sans doute, que le Christ ait accompli son premier miracle lors d'un mariage. C'est la bénédiction divine, le sceau divin sur cette institution, au cœur de la société humaine, que Dieu a voulu pour notre bien. Puis, on s'aperçoit aussi, c'est tout simple, mais que Dieu n'est pas opposé au plaisir légitime de la vie. Vous voyez, une fête de noces avait été organisée. Alors c'est vrai que dans la culture hébraïque, Ces fêtes de noces pouvaient se prolonger plusieurs jours, c'est ce qui explique peut-être, sans doute, certainement, que le vin ait fini par manquer. Et eh bien, le Seigneur Jésus, qui remontait de Judée, a été invité avec sa famille. D'ailleurs, Marie était là également. Peut-être même cette fête a-t-elle été organisée dans le sein de la, la famille, selon la chair du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on voit que Marie va jouer un rôle actif dans ces noces. Et eh bien, le Seigneur n'a pas refusé, n'a pas décliné cette invitation, non. Il s'y trouve, il va partager ses joies simples et légitimes à l'occasion de ces noces, toutes, nous l'avons dit, en apposant son sceau, son approbation à cette union du mariage qui était conforme à sa volonté. Vous voyez, il y a des gens parfois qui disent « la vie chrétienne, c'est triste, hein, si je deviens chrétien, je vais devoir renoncer à toute joie », c'est absolument pas vrai. Dieu prend plaisir aussi aux joies légitimes de l'homme, et même, il les partage. Et puis, une troisième pensée préliminaire, c'est que on voit dans cette scène que le Christ se met à notre portée. Vous voyez, il prend part à cette fête de noces, il est là, présent, il se réjouit auprès des mariés. Certains hommes, bien des religions terrestres, enseignent que c'est à l'homme de s'approcher de Dieu par ses bonnes œuvres, par ses pratiques religieuses, par ses cérémonies, par les pénitences, les souffrances qu'il s'inflige, auxquelles il attribue une valeur méritoire. Mais l'Évangile nous dit tout l'inverse. Vous voyez, c'est impossible pour l'homme de s'approcher de Dieu par ses propres moyens, par ses efforts. En revanche, Dieu, dans sa bonté, par Jésus-Christ, s'approche de nous, se met à notre niveau, de la même manière que le Christ a pris part à cette fête de noces. Bien, Dieu était en Christ et il s'approche de nous. Partager les moments de joie légitime, pourquoi pas, et parfois aussi nos épreuves afin de nous secourir. Alors, si nous nous penchons de manière plus exacte sur ce miracle que le Christ a accompli, ce premier miracle, bien, nous dégageons un certain nombre de pensées. La première, c'est qu'il est possible, voyez, que nous nous trouvions dans un lieu tout proche de Jésus, que Jésus se trouve plutôt tout proche de nous, dans certaines de nos circonstances, et que nous n'en ayons pas conscience. Car, si on réfléchit à la condition de ces conviés qui étaient présents à cette fête de noces à Cana, bien on imagine qu'il y avait un bon nombre de personnes. Hein, si, d'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que si vous faites un petit peu l'addition du nombre de litres de vin qui se trouvaient là dans les vases, qui ont été d'abord remplis d'eau, on arrive à un total de plusieurs centaines de litres. On imagine donc qu'il s'agissait là d'une fête d'une certaine ampleur. Il y avait donc toutes sortes de gens qui étaient présents dans ce lieu, là où se trouvait le Seigneur, le Fils de Dieu, et ils n'en étaient pas conscients. Jusqu'au moment où, pour certains d'entre eux en tout cas, ils ont pris conscience de sa présence, justement à travers ce glorieux miracle qu'il a manifesté, et sans doute, voyez, ça leur a fait du bien, ça les a touchés, puisqu'il est écrit que beaucoup des conviés qui ont eu connaissance de ce miracle virent sa gloire et crurent en lui. Bien, si tel était votre cas, si vous étiez présent cet après-midi, peut-être que quelqu'un est présent à cette réunion en disant « je suis venu là pour faire plaisir à un chrétien parce qu'on m'a invité », voilà, mais que vous n'aviez pas cette conscience profonde de la présence du Seigneur Jésus, bien, c'est le moment de prendre conscience qu'il est présent. Car en effet, le Seigneur a dit « je suis là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Et encore, il y a ce verset de l'Écriture qui dit que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Et lorsque nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Et lorsqu'il le fait, bien les choses les plus glorieuses, les meilleures choses peuvent se produire dans notre vie. C'est ce que nous vous souhaitons et c'est pourquoi nous vous annonçons cet après-midi l'Évangile. Puis une deuxième pensée marquante, c'est que c'est une difficulté qui a été à l'origine là de ce miracle, finalement. Ah, ce n'était pas une difficulté dramatique. Hein. Le vin a manqué. Voilà, au bout de plusieurs jours de cette fête de noces, ils n'ont plus eu de vin. Il y avait des réserves qui ont été faites. Est-ce qu'il y avait plus de monde que prévu? Est-ce que les arrangements avaient été faits de telle sorte que, voilà, on n'avait pas prévu, on n'avait pas assez commandé de vin, il n'y en avait pas assez. Et dans cette difficulté, vous voyez, on a fait connaître cette difficulté au Christ. Le Seigneur en a eu connaissance, et sur la connaissance qu'il a eue de cette difficulté, eh bien c'est le Seigneur qui va parler aux serviteurs en leur disant « remplissez d'eau ces vases », et ça a été l'occasion du miracle. Cette eau a été changée en vin, et en vin excellent, puisque ceux qui l'ont goûté, l'ordonnateur du repas notamment, ont été impressionnés par sa qualité. Eh bien, c'est souvent des difficultés. Ça, c'est un fait qui amène l'homme à se tourner vers Dieu. Pourquoi ? Pour toutes sortes de raisons. Parce que notre cœur est parfois insouciant et emporté qu'il est par les soucis de la vie, par les plaisirs de l'existence aussi. Le cœur de l'homme n'est pas enclin à chercher Dieu, à se tourner vers son Créateur. C'est triste, mais c'est ainsi. Et puis aussi parce que, pour le reconnaître, il y a aussi dans le cœur de l'homme un orgueil qui bien souvent l'éloigne de son Créateur, l'empêche de reconnaître la nécessité de bénéficier de l'aide, de la direction aussi, de l'autorité bienfaisante de Dieu qui nous a créés et qui nous a appelés à une glorieuse vocation, mais de laquelle nous nous sommes détournés. On en reparlera dans quelques instants, à cause du péché. Et bien parfois, il faut la difficulté. Et Dieu permet dans nos vies la difficulté. Voilà, parfois, il y a eu de grandes difficultés et qui ont eu pourtant de grands effets bénéfiques. Quand elles ont contribué, quand elles ont conduit, parfois, avec l'aide de Dieu, de son bon esprit, qui travaille là au fond de notre conscience, des hommes et des femmes à reconnaître voilà leur besoin de Dieu. « Invoque-moi au sein de la détresse, dit un psaume, et je te délivrerai, dit Dieu, et tu me glorifieras. » Pour d'autres, ça a pu être des difficultés beaucoup plus passagères, parfois beaucoup plus matérielles, comme ce manque de vin. Voilà, quelle que soit votre difficulté, si toutefois vous passiez par la difficulté, bien, tournez-vous vers Dieu. Cherchez-le. Faites-lui connaître votre perplexité, votre besoin d'être secouru. Et très certainement, Dieu vous entendra. Hein, approchez-vous de Dieu, est-il écrit, et il s'approchera de vous. Il y a ce beau verset de la Bible qui dit « Ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Parce que ça répond à nos prières, et elle apporte souvent une solution qu'aucun homme ne peut apporter. Et c'est bon, dans la détresse, dans la perplexité, devant une difficulté, de s'approcher de Dieu, le Seigneur, vous verrez, est capable de nous secourir parfaitement. Puis une troisième pensée concernant ce miracle de l'eau changée en vin, bien c'est qu'il nous montre, il témoigne là de manière éclatante de la toute-puissance de Jésus. Voilà, quel miracle extraordinaire! A-t-on déjà entendu dire que de l'eau ait été changée en vin? Le Seigneur parle à ses six serviteurs, ils remplissent jusqu'en haut ces jarres, et lorsqu'on fait goûter ce vin à l'ordonnateur du repas, nous l'avons dit, c'est un vin d'une qualité excellente. Voilà. Seul le Seigneur, par sa puissance miraculeuse, a pu accomplir un tel acte, une telle œuvre. Et ça nous parle du fait que rien n'est impossible à Dieu. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné au Christ. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et ce qu'il nous faut pour expérimenter cette puissance à l'œuvre dans nos vies, si nous en avons, si nous reconnaissons le besoin cet après-midi, bien c'est la foi. La foi, c'est le fait de faire confiance à Dieu, de nous approcher de lui dans cette attitude de confiance et d'attente. Voilà, la foi est une ferme assurance, est-il dit, des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ou pas encore. Alors quelqu'un dira, mais moi j'ai peu de foi. Ou ma foi est d'une si piètre qualité que j'ose pas m'approcher de Dieu. Mais je vous assure que même si nous avons un tant soit peu de foi, je dirais que ça suffit à Dieu pour nous secourir. Il prend plaisir à nous bénir. Je me souviens de cet incident, là on est parfois témoin de la bonté de Dieu. Je me souviens de ce qui s'est passé un jour, ça remonte à plusieurs années, dans une église en Normandie. Nous avions une série de réunions, comme cet après-midi, puis il y avait là un petit monsieur qui était présent dans l'auditoire. Il avait été invité par un couple de chrétiens, et j'avais remarqué que pendant la prédication, ce monsieur, il avait un petit sourire moqueur. Ça a duré là pendant tout le temps de la réunion. Et comme on le fait parfois, à la fin de la réunion, nous avons proposé à ceux qui souhaitaient que le l'on prie, que l'Église prie pour eux, de s'approcher sur le devant. Et ce petit monsieur, là, s'est levé. Et il est venu. Et il avait toujours son petit sourire moqueur. Alors, on a prié, l'Église s'est associée à la prière, on a demandé à Dieu de le bénir, de lui faire du bien. Et puis, voilà, il est rentré chez lui, la réunion s'est terminée. Et plusieurs jours se sont passés. Et plusieurs jours après, je crois que c'est une semaine plus tard, le couple de chrétiens qui avait amené ce petit monsieur sont venus nous trouver et nous ont dit « Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. » Et nous ont expliqué que ce monsieur, il souffrait de dépression depuis des années. Une dépression terrible. Rien n'y faisait, ni les médicaments, ni les traitements médicaux, ni les médecins. Et voilà, il l'avait invité à venir à la réunion en disant « Mais certainement, Dieu peut te bénir, Dieu peut te délivrer de ta dépression. » Et ce petit monsieur-là qui leur avait dit « Moi, je ne suis pas croyant. Je viens pour vous faire plaisir, mais je vous préviens, moi, je ne crois pas. » Et il était venu, alors à moitié, pour se moquer. Vous voyez que sa foi était loin d'être parfaite. Et pourtant, Dieu l'avait instantanément, au moment de la prière, délivré de sa dépression. Il était rentré chez lui pour s'apercevoir que tout ce fardeau de dépression, de noirceur qui pesait dans son cœur, là, Dieu l'en avait parfaitement délivré. Et même, parce que Dieu, quand il nous bénit, il ne fait pas les choses à moitié, et cet homme avait un autre problème, hein, et pour lequel il n'avait pas demandé expressément l'aide de Dieu, il était alcoolique, était dépendant de l'alcool, et Dieu l'en avait délivré simultanément, sans même qu'il le demande. Et ses voisins avaient fait cette constatation, ça nous a été rapporté que dans la cour, effectivement, il habitait une toute petite maison, misérable. Dans la cour de sa maison, les gens voyaient s'entasser là des bouteilles de vin. Et à partir de ce jour-là, les gens se sont fait la réflexion que quelque chose avait dû se produire, puisque s'entassaient dans sa cour des bouteilles de Perrier. Vous voyez, le Seigneur l'avait béni, et sa foi était loin d'être parfaite. Voilà, quelle que soit la qualité de notre foi, si nous approchons du Seigneur cet après-midi, en demandant son secours, bien il est capable de nous bénir, et même, comme c'est écrit, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est ce que nous montre, voyez, ce miracle de Cana. Puis, une autre pensée encore. Vous voyez, les vases qui ont été utilisés là, pour mettre l'eau, dans lesquels les serviteurs ont mis l'eau qui a été changée en vin, l'évangéliste Jean prend le soin de nous préciser qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel vase, mais il s'agissait de vases, nous est-il dit dans le récit, destinés aux purifications des Juifs. Alors, en d'autres termes, il s'agissait de vases à utilisation rituelle. C'était un emblème religieux. Leur utilisation était religieuse. Et il me semble que le fait que le Seigneur ait demandé à ce qu'on remplisse d'eau ces vases particuliers, ça revêt une signification. Ce que le Seigneur voulait nous montrer, c'est que, et montrer aux Juifs qui étaient présents aussi là, c'est que ces vases qui représentaient la religion, qui représentaient leurs pratiques religieuses régulières, sérieuses sans doute dans bien des cas, eh bien, il nous parlait, ces vases, de l'incapacité de la religion de nous apporter le vrai bonheur, la vraie joie. Vous voyez, le vin, dans la Bible, parfois, nous parle de la joie. Eh oui, il y a ce verset dans les psaumes qui nous dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Alors, bien sûr, nous ne devons pas comprendre par là que Dieu sanctionnerait l'alcoolisme ou les excès, pas du tout. Mais comme nous l'avons dit, Dieu n'est pas opposé au plaisir légitime. Et voilà, d'une certaine manière, oui, dans la Bible, le vin nous parle aussi d'une joie saine et légitime. Et à côté de cette joie, l'eau qui était dans les vases, ben, ce n'est pas ce dont les conviés avaient besoin. Le vin manquait. Ce qu'on voulait, ce n'était pas de l'eau insipide. Et vous voyez, la religion la plus orthodoxe, comme le judaïsme de ce temps-là, il était absolument orthodoxe, il reposait d'ailleurs en grande partie sur la foi dans la loi de Moïse, dans les préceptes de l'Ancien Testament, qui avaient été révélés par Dieu lui-même. Eh bien, la religion la plus orthodoxe, s'il n'y a pas un contact vivant avec le Dieu qui a inspiré sa parole, elle ne peut nous servir de rien. Elle ne donne aucune assurance devant la mort, devant l'éternité. Elle ne peut pas apporter de réponse aux questions légitimes là, qui sont présentes au fond du cœur et de la conscience de tout homme. Elle n'apporte aucune joie. Elle est parfois la religion des hommes, même orthodoxe, nous l'avons dit. Elle est parfois triste, morne. Elle conduit parfois à l'hypocrisie et à toutes sortes de d'excès. Mais, voyez, quand il y a, au-delà d'une simple religion, la foi, un contact avec le Christ, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. C'est la joie de Dieu que nous rencontrons, avec laquelle nous avons contact. Et pourquoi ? Parce que, vous savez, le Seigneur qui, ce jour-là, va dire aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases, et qui va changer cette eau en vin, mais il était au commencement de l'accomplissement de la mission que Dieu son Père lui avait confiée. En quoi consistait cette mission ? Il venait pour s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Voilà l'agneau de Dieu, dira Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde. Le péché, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est notre transgression de la loi divine. Voilà, ça, nous sommes tous concernés par ce problème. La Bible le dit de manière très claire. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et par nos pensées, par notre conduite, par certains choix que nous avons pu faire, voilà, notre conscience en rend témoignage, nous avons transgressé cette loi divine avec toutes les conséquences dans le siècle présent, dans l'éternité que ça peut avoir. Et notre besoin le plus grand, le plus urgent, c'est de trouver auprès du Christ le pardon de nos péchés. Et béni soit Dieu, c'est pourquoi il est venu. Il est venu pour les porter en son corps, sur le bois, pour livrer sa vie en sacrifice, pour nous représenter dans son sacrifice, dans son œuvre de rédemption, pour que nos péchés soient effacés. Et quand on vit ça, quel bonheur ! C'est une joie extraordinaire qu'on éprouve. Il y a un homme de la Bible qui a écrit « Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés, heureux l'homme à qui la transgression est remise ». Je me souviens du témoignage de ce jeune chrétien qui avait découvert l'Évangile quelques mois auparavant. Il disait « Mais quand je me suis converti, c'est comme si un poids avait été ôté de mes épaules. J'ai retrouvé une joie que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais connue auparavant ». Il disait, entre autres, « Je me suis retrouvé là dans un lieu, c'était environné de montagnes. » Et il disait, dans la création même, je redécouvrais toute la beauté de Dieu. Je voyais une gloire dans la création que je n'avais jamais connue auparavant. Quel bonheur quand Dieu pardonne nos péchés, quand il nous ouvre le ciel. Le Seigneur dira, celui qui croit en moi ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Et ça, ça nous parle de ça, hein, cette eau changée en vin. La religion avec ses rites insipides, nos efforts qui laissent place à la joie de Dieu, la joie de le connaître, de se voir gracié, pardonné, racheté, de voir une communion rétablie avec le Dieu le Père et de recevoir cette assurance de la vie éternelle. Et puis enfin, ce qu'on voit bien sûr dans ce miracle du Seigneur, ce premier miracle du Christ, c'est que l'Évangile est un évangile de changement. Hein, l'eau changer en vin. Voilà, nous avons parlé de la tristesse qui peut se changer en joie, de la religion insipide et inefficace qui peut se transformer en une relation véritable avec Dieu par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son sacrifice. Et puis ça nous parle aussi du changement intérieur que l'Évangile apporte dans le cœur de celui qui le reçoit. Un apôtre du Christ, un homme de la Bible, a pu écrire ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que lorsque nous ouvrons par la foi que nous apportons à l'appel divin, notre cœur au Christ, non seulement il nous pardonne, mais encore il opère en nous une transformation profonde. Vous voyez, Dieu nous a appelés, non pas à être esclaves de nos vices, de nos passions, de nos raisonnements, des comportements dégradants hein, qui se manifestent parfois dans la vie des hommes, même les plus élevés socialement. Hein, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'aucune élévation sociale ne met l'homme à l'abri des pratiques les plus dégradantes, parfois entretenues secrètement. Mais ce n'est pas ça, bien sûr, à quoi Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à marcher d'une manière digne de la vocation qu'il nous adresse, à renoncer au mal, à ce qui nous tient servi, enchaîné, ce qui nous dégrade, pour marcher, voyez, la tête haute, non pas dans l'orgueil, mais avec reconnaissance pour son pardon et son bon esprit qu'il nous donne pour marcher et pratiquer ce qui est bon, ce qui lui est agréable, vivre d'une manière juste, honnête, pure, en nous préservant là des influences corruptrices, corrompues, souillées du monde qui nous environne et qui rejette tout ce qui est bon que Dieu nous a laissé. Voilà, ça, Dieu l'opère en nous, une œuvre excellente de transformation par sa parole et par son esprit, un petit peu comme il a changé cette eau-là en un vin excellent. Voilà, plusieurs l'ont vu et ont cru en lui. Aujourd'hui, nous, de la part du Seigneur, nous vous apportons ce message. C'est un appel, voyez, à notre foi. C'est un appel destiné à créer en nous la foi. Serez-vous du nombre de ceux qui placeraient cet après-midi votre foi en lui ? Je vous propose de nous recueillir et ensemble nous allons l'invoquer quelques instants. Te bénissons.